Bonsoir. Le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a échangé ce lundi 6 juillet à Bujumbura avec une délégation en provenance de la République démocratique du Congo, rapporte la présidence burundaise. Une délégation composée des responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses du pays, au menu des consultations sur les tensions politiques, sécuritaires et institutionnelles en RDC. Le chef de l'État burundais a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des échanges menés dans un esprit d'ouverture et de confiance. Il insiste sur l'importance d'un dialogue constructif et sur l'unité. Sur le compte X de la présidence burundaise, le président Ndayishimiye reconnaît la volonté commune manifestée au cours de ces échanges en faveur de la stabilité, de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région. Cependant, l'opposition C64, au cours de ses consultations, était porteur d'un seul message. La constitution ne peut être changée. Outre la coalition d'opposition C64, le chef de l'État burundais a également reçu séparément les représentants de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle, de l'Église du Christ au Congo, SCC, ainsi que de la plateforme des confessions religieuses et églises de réveil en République démocratique du Congo. Quelle lecture faire de ces consultations tenues au Burundi? C'est le débat d'aujourd'hui et pour en parler, nous serons ce soir avec Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, Dina Paul en sigle. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce débat également, Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en ligne par le téléphone et vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et de maintien de paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Et enfin, pour clore ce casting, Alidor Chibanda, docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université Pédagogique Nationale, UPEN en sigle. Vous êtes intéressé par les questions liées à l'État et à la démocratie. Alidor Chibanda, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, ainsi donc, bienvenue dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Le président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a échangé lundi dernier à Bujumbura avec une délégation en provenance de la République démocratique du Congo, rapporte la présidence burundaise, une délégation composée des responsables des partis politiques d'opposition ainsi que des leaders des principales confessions religieuses du pays, au menu des consultations sur les tensions politiques, sécuritaires et institutionnelles en RDC. Plus de détails dans ce compte-rendu de Grace Amzati.
Devant le président burundais, la coalition d'opposition C64 affirme avoir insisté sur le respect de l'ordre constitutionnel. Franklin Tshamala, secrétaire général du parti LGD, explique.
Nous avons livré chacun notre point de vue par rapport à la crise profonde et multidimensionnelle que notre pays connaît et nos propositions ont envie d'en sortir. Et globalement, tout le monde convient qu'il faille tenir un dialogue inclusif, dans le cas duquel toutes les composantes importantes, tous les leaders qui ont de l'ancrage dans notre pays devront être participants. Et nous pensons que c'est positif, nous sommes sur la voie de la tenue du dialogue.
De son côté, le président de la plateforme des confessions religieuses et des églises du réveil en RDC met l'accent notamment sur le respect des institutions du pays. Archevêque Évariste Eshibayamapia.
Le seul message, il fait appel à l'unité, à la cohésion nationale, à être ouvert et surtout au respect des institutions de la République. Les autres détails, lui-même, avec son homologue, le président Félix-Antoine Tshisekedi, ils vont voir quelles sont les orientations qui seront données.
À l'issue de ces consultations, la présidence burundaise indique que le président Évariste Ndayishimiye se félicite de la qualité des échanges et de l'engagement exprimé par les participants en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité en RDC, ainsi que dans la région du Grand Lac.
Christian Moleka, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, Dina Paul en sigle, quelle analyse faire de ces échanges du Burundi?
Merci beaucoup. On l'a dit Paul et nous l'a dit Napole. Les rencontres de Bujumbura vraisemblablement servaient à désamorcer la tension, les tensions qui couvaient autour de la date du 8 juillet. Nous avions une perspective de confrontation qui se dessinait de plus en plus et donc une tentative qui pourrait désamorcer la crise a certainement été proposée via le président burundais. Et donc on peut se dire qu'il y a plus ou moins une détente qui pourrait se définir, si tant est que les partis ont réussi à arrondir les angles et à trouver des points de compromis, parce que c'est ça le grand défi. Est-ce qu'il y a eu de points de compromis et comme toute négociation, quels ont été les gains et les compromis que chacun a pu obtenir? Est-ce que l'opposition, par exemple, a pu obtenir la suspension de la loi référendaire? Est-ce que la question constitutionnelle a trouvé un point de compromis? Est-ce que le pouvoir a fait de concessions? Quelles sont les concessions qui ont été faites? Et quels sont les points de compromis que l'opposition a acceptés? Un dialogue? Est-ce qu'un dialogue à quel horizon? Est-ce qu'avec tous les acteurs ou non? Est-ce que le dialogue qui se dessine selon la RDC y prendra part? Est-ce que le glissement ou les élections 2028 se tiendront-ils? Chaque parti a certainement, dans ce jeu des négociations, mis en place des gains de compromis. Et donc c'est à la lueur de ces gains de compromis et notamment de sa mise en œuvre qu'on pourra juger de l'efficacité de ce processus. Il faut quand même rappeler qu'avant Bujumbura, il y a eu Luanda, avant Luanda, il y a eu Lomé, avant Lomé, il y a eu Nairobi, et puis il y a eu la facilitation à 5. Donc ce n'est pas la première initiative de dialogue qui se met en place. Le problème, ce n'est pas les cadres, le problème, c'est la capacité des Congolais à trouver des compromis et à mettre en œuvre les engagements. Tant qu'on aura une forme d'évolution des cadres, mais sans évolution des positions, eh bien, Bujumbura pourrait rejoindre la longue liste d'initiatives de négociation qui n'ont pratiquement rien donné.
Alors, beaucoup d'interrogations, donc beaucoup d'inconnus donc que vous relevez là, mais si on ne connaît que ce que, notamment nous, les médias, nous avons pu publier, notamment ce que les auditeurs viennent d'écouter en résumé de cette en introduction de cette émission, est-ce que vous avez réussi, en tant qu'analyste, en tant que spécialiste de ces questions-là, à savoir un peu plus sur ce qui s'est dit, et puis vous parlez de négociation, est-ce que pour vous c'est déjà le terme négociation ou pas?
Déjà on peut parler de négociation, on peut en parler de... Puisque la logique c'est que chaque parti a amené une forme de cahier des charges, ou peut-être de pré-négociation. Chaque parti a amené un cahier des charges à soumettre à celui qui momentanément a servi de bons offices. Et donc on a pu entendre les uns des autres sur les points sur lesquels ils pensaient être... des points d'importance, que ce soit le respect de l'ordre institutionnel pour le régime ou la non tenue ou le respect de la constitution pour d'autres. Et donc on est dans un scénario où chaque parti se prépare avec une forme de cahier des charges à soumettre à des bons offices du Bujumbura.
Et qu'est-ce que à votre niveau vous avez pu déjà glaner? On est ici hein, pour un peu faire de la pédagogie à notre public. Est-ce que nous pouvons déjà commencer à percer l'abcès à partir d'ici, parce c'est que apparemment on n'en sait pas, on a du mal à savoir un peu plus.
Ce qu'on a pu constater des premières réactions, c'est une opposition qui dans sa communication paraît enthousiaste. Est-ce que l'enthousiasme est lié au fait que les concessions faites par le pouvoir confortent leur position, ou les enthousiasmes sont liés par le fait d'une forme de garantie de dialogue sur la table? Deuxièmement, on sent chaque parti plus ou moins dans la retenue. On n'a pas eu l'escalade verbale habituelle que nous avons entre les deux familles politiques. Et donc, le fait que chaque parti sorte avec une forme de retenue laisse à penser que les négociations étant ouvertes, personne ne veut faire l'escalade et donc on va vers une forme de logique de dialogue, si on peut le dire ainsi. Et donc, troisièmement, ce qu'on a pu constater également, c'est que c'est la partie, souvent l'RDC, qui a été la plus agressive contre le dialogue. Et donc, probablement une forme de ligne des fractures également entre l'opposition extérieure, celle de souvent l'RDC, vis-à-vis de l'opposition intérieure, celle de 64. Et donc, cette démarche-là de division, si on peut lire l'opposition, conforte plus ou moins le régime, qui s'inscrivait dans une logique de dialogue uniquement réservée à l'opposition interne, excluant d'autres. Mais également, ça, du côté de pouvoir, on peut dire qu'il y a une forme également de satisfaction parce que la tension de 8 juillet a été désamorcée. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 8 et la journée n'est pas celle que l'on pensait avoir. Et donc, de chaque parti, on sent qu'il y a une forme de satisfaction Mais nous attendons à voir les communiqués. J'ai cru comprendre que l'opposition se prononcerait demain. Donc on attendra voir dans leur communication quels sont les éléments qu'ils apporteraient.
Alors, selon vous, que cherche vraiment de manière concrète la présidence burundaise? Que cherche-t-elle à faire ou à obtenir qui jusqu'ici n'a pas encore été réalisé?
Bon, je crois que le Burundi a un double intérêt. Le premier, c'est que le Burundi a fait le choix de soutenir, de faire alliance avec Kinshasa contre Kigali. Et donc, la stabilité du Congo impacte d'une certaine manière la stabilité du Burundi. Et un Congo instable, un allié instable, face à un ennemi commun, devient pour vous plus un fardeau qu'un allié. Et donc, le Burundi a intérêt à avoir un minimum de stabilité au Congo pour pouvoir maintenir l'alliance stratégique sécuritaire que nous avons à l'Est. Deuxièmement, c'est que Burundi est un allié de Kinshasa. D'une certaine manière, au-delà d'être un allié militaire, il est un allié politique également. Et donc le président burundais peut venir aux rescousses de son allié de Kinshasa en proposant via l'Union africaine des leviers diplomatiques que Kinshasa n'arrive pas à actionner en interne. Il ne faut pas oublier que nous avons déjà fait tous les pays de la sous-région. Nous avons fait le Kenya, nous avons fait l'Angola. À un moment donné, on est allé vers Brazzaville. Et nous sommes maintenant au Togo. Est-ce que demain, on a fait l'Ouganda à un moment donné avec Bahala qui a été remercié. Et donc, nous sommes maintenant du côté burundais. Est-ce que nous allons épuiser tous les pays de la sous-région dans la quête d'une solution que nous pouvons peut-être trouver nous-mêmes en interne? Donc, le Burundi, oui, a des intérêts manifestes chez nous. Est un allié stratégique de Kinshasa, mais c'est également un pays qui, pour l'instant, occupe l'Union africaine et qui peut utiliser ce levier de médiation au niveau africain.
Alors, on sait que le président burundais peut appeler son homologue ou le régime actuel à tout moment, et peut-être c'est ce qui justifie peut-être qu'il n'y ait pas eu une délégation ou des délégués du régime. Mais comment analysez-vous la composition opposition? Les confessions religieuses, notamment l'église catholique et l'église protestante, connues pour être ensemble dans beaucoup de choses entre eux, et de l'autre côté les confessions des églises du réveil, sauf si je me trompe, hein, depuis un bon moment on a comme l'impression que ce côté-là, les églises du réveil sont plus avec le pouvoir en place. Alors, devant toute cette composition, quelle est votre analyse? Est-ce que les églises du réveil, par exemple, selon vous, ont été le contrepoids au bloc SCC, Senko et l'opposition?
Je pense que la démarche initiale était de désamorcer la tension autour du 8 juillet. C'est d'ailleurs pour ça que la première composition a fait appel à l'opposition, 64, puis la Senko qui dispose encore d'une forme de feuille de route susceptible d'encadrer un dialogue. Le pasteur Ejiba a suivi après quelques temps, c'était une expression déjà de sa propre volonté. Et donc, c'était pas l'initiative au départ du Burundi, et puis qui s'est élargie quand même pour ne pas avoir que simple de coche de l'Église catholique. Et donc, on a bien voulu également avoir le point de vue de la dynamique Ejiba avec les Églises des réveils. Mais dès le départ, c'était autour de la date du 8 juillet, autour des tensions, éventuellement, comme je l'ai dit, désamorcer la crise interne. C'est d'ailleurs pour ça également que probablement on n'a pas vu la participation à la fois de l'opposition sauvant l'RDC et éventuellement également du M23 qui du reste est en opposition armée avec le Burundi.
Merci, on reste avec vous dans ce débat, Christian Moleka. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et de maintien de la paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Pour vous, quelle analyse vous faites aussi de tout ceci?
Merci. Nous saluons les initiatives qui sont en train d'être mises en place pour que la paix, la stabilité reviennent dans l'est de la IRDC et par ricochet dans la région des Grands Lacs. Cependant, la crainte, c'est que on risque d'aller des initiatives en initiatives, mais entre-temps sur terrain, la situation demeure déplorable et ce sera le peuple congolais qui en paiera toujours le prix. Et l'initiative du président burundais entre en ligne de compte en tant que président de l'Union africaine, mais aussi en tant que voisin direct de la RDC qui craint le débordement, si vous voulez, l'embrasement de la région, parce que lorsque vous suivez l'évolution de la situation sur le terrain, eh ben, vous vous rendez compte qu'il y a cette violation du cessez-le-feu qui a toujours été là et que cela risque de déranger, n'est-ce pas, la stabilité au Burundi. Mais c'est aussi, il veut engager sur son agenda un prestige d'avoir contribué à résoudre une crise congolaise, parce qu'on a toujours décrié aussi cette incapacité, passez-moi l'expression, de l'organisation continentale à apporter des solutions africaines aux crises africaines. Et je crois qu'en tant que président en exercice de l'Union africaine, il voudrait inscrire cela sur son agenda, avoir contribué, n'est-ce pas, par ses bons offices à la paix et à la stabilité. Mais là où ça pose problème, c'est que l'initiative est bonne, mais il faudrait que cette initiative soit inclusive. C'est-à-dire, les acteurs majeurs soient appelés, mais aussi, les questions majeures soient aussi posées sur la table. Ça, c'est aidé. Donc, une chose est de convoquer les acteurs majeurs, indirectement ou directement, qui participent à cette instabilité ou à cette crise. Une autre est d'être en mesure de parler des questions qui fâchent ou des questions profondes qui divisent pour que, une fois au dialogue, que les compromis soient trouvés et que les gens s'engagent sur la voie, n'est-ce pas, du progrès par l'application de ce à quoi ils se sont engagés. Voilà comment on peut analyser cette initiative. Et le souhait est que cette initiative ne soit pas une initiative de plus ou un doublon de ce qui existe, mais un complément, par exemple, de ce qui se passe à Luanda, de ce qui se passe à Doha, qui a été délocalisé en Suisse. Et peut-être même par l'accord de Washington. Voilà comment on peut analyser cette initiative du président Burundais.
Alors, dans votre intervention, vous parlez de la problématique du respect du cessez-le-feu. Ça implique ce qui se passe sur le front des combats dans la partie est de la RDC. Mais est-ce que l'initiative du président burundais concerne cet aspect, ou bien il s'agissait plutôt, selon vous, de l'initiative pour désamorcer ce qui est peut-être urgent en ce moment, c'est-à-dire la tension qui commençait peut-être à monter avec les actions de l'opposition et le débat autour de oui ou pas changement de la Constitution?
Je crois les deux, mais le plus prépondérant, c'est désamorcer, n'est-ce pas, la tension qu'il y avait. Monsieur Christian Moleka est revenu là-bas, c'est-à-dire la date du 8, c'était une date, pardonnez-moi l'expression, dangereuse, compliquée, parce que l'opposition était déterminée, n'est-ce pas, à manifester son mécontentement par rapport à ce projet référendaire. Je crois que cette initiative du président Burundais entre en ligne de compte pour désamorcer cela, mais aussi essayer tant soit peu de rassembler l'opposition pour accepter, n'est-ce pas, la voie du dialogue. Mais cette initiative serait, d'un point de vue favorable à la paix, dès lors qu'elle intégrera tous les acteurs majeurs et qu'elle parlera des questions qui fâchent. Et pour terminer, je pense que le président burundais, vous l'avez suivi dans certains médias et par d'autres analystes, c'est que il y a une tendance qui remet en cause la neutralité du président burundais, d'autant plus qu'il est allié de Kinshasa. Et que un allié de Kinshasa, alors que l'opposition n'est-ce pas, s'attaque à la majorité, eh ben, il y a crainte de voir un dialogue inclusif et les cahiers des charges être pris en charge, passez-moi la redondance, de l'opposition dans la mesure où Bujumbura est, n'est-ce pas, ou aurait des penchants vis-à-vis de Kinshasa. Mais nous pensons que ce soit Bujumbura ou Angola, ces initiatives devraient conduire à la paix et devraient, n'est-ce pas, être cohérentes pour que les dialogues soient mis en place, parce que on a Il faut le dire à haute voix. Il faut reconnaître, n'est-ce pas, les limites des approches militaires et que l'approche politique, notamment les dialogues, devrait être privilégiée pour que la paix et la sécurité reviennent à l'Est et pourquoi pas sur toute l'étendue du pays.
Frédéric Amani, il n'est donc pas exclu que dans les jours à venir, ces consultations, ces échanges se poursuivent, mais de ce que vous avez entendu ou de ce que vous avez su voir, avez-vous l'impression que il y a eu évolution, il y a avancé vers une compréhension, voire une résolution des problèmes posés par les uns et les autres?
Bien, il est trop tôt de le dire parce que les membres de l'opposition sont arrivés aujourd'hui et ils ont promis faire un point de presse ou un communiqué de demain. Nous attendons suivre ce qu'ils vont communiquer et peut-être à l'issue de leur communication, nous nous ferons une idée. Mais moi, je pense que je ne vais pas être pessimiste, mais je crains que l'initiative de Bujumbura aille plus loin pour plusieurs raisons, notamment l'inclusivité, le manque d'inclusivité, mais aussi le fait que le cahier des décharges des uns risque d'être rejeté par les autres. Et donc, je pense que l'initiative de Bujumbura semble, dans mon point de vue, être une initiative passerelle dans la mesure où c'est juste pour calmer d'abord que cette vague des manifestations se temporise ou passe, mais après peut-être ils vont continuer avec l'initiative de Luanda et des Doha. Mais alors, pour terminer, il ne faudrait pas que les médiateurs des autres initiatives se sentent lésés ou subordonnés par d'autres initiatives et ça risque de conduire à des méfiances et que c'est la RDC qui sera perdante et surtout son peuple parce qu'il y aura un statu quo et il y aura du sur place malheureusement.
Merci Frédéric Amani. Alidor Chibanda, docteur en sciences politiques de l'université de Kinshasa et enseignant à l'université pédagogique nationale, UPEN en sigle, vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Selon vous, y a-t-il quelque chose à espérer du Burundi ou pas?
Pourquoi pas? Tout ce que peut apporter la paix, discuter sur le Congo dans la situation dans laquelle le pays est plongé est toujours le bienvenu. Dire qu'on ne peut pas espérer quelque chose, c'est trop tôt.
Tout à l'heure, vous avez entendu Frédéric Amani ne pas dire qu'on ne peut rien attendre, mais il pense que c'est une initiative qui sera très rapidement limitée dans le temps, voire partagée.
Attendons voir ce qui va être dit par l'opposition. D'accord. Pour nous faire une idée correcte de la pérennisation ou la pérennité de ce qui va être ce qui est en train de se faire par le président burundais. Mais ce que je voudrais dire, c'est que parce que vous vouliez savoir s'il y a eu quelque chose, moi j'ai dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la manifestation qui devait avoir lieu hier et aujourd'hui n'a pas pu avoir lieu. Elle aura lieu le 22. Et le 22, d'après ce que j'ai suivi le communiqué du gouvernement provincial, c'est que ces gens seront accompagnés. Vous voyez déjà qu'il y a, comme l'a dit M. Christian, il y a déjà une détente qui est en train de se vivre dans le champ politique congolais qui était très remonté avec des contradictions de part et d'autre. Au départ, le gouvernement semblait montrer qu'il n'y avait pas d'opposition
sérieuse.
Faire le contrepoids. Aujourd'hui, nous assistons à une résistance réelle de l'opposition qui a fait bouger les lignes, qui pousse maintenant le pouvoir à revoir ses calculs. L'autre fois, j'ai dit ici que avec la ville morte, le pouvoir devait commencer à réfléchir sur toutes les stratégies mises en place pour éviter de donner plus du poids à l'opposition qui risque de constituer une véritable force d'alternative. Et dans le jeu politique, comme on le dit, le champ politique c'est un champ de lutte. Et en tant que champ de lutte, ce sont des rapports de force
qui détermine l'issue d'un combat. Aujourd'hui, le pouvoir fait face à une guerre, à une opposition, bon, n'appelons pas ça opposition, à une résistance militaire, et de l'autre côté, laisser l'opposition faire la rue régulièrement, c'est mettre le pouvoir en péril et au risque d'assister au pire. Alors, ce qu'il y a eu a tempéré la situation, mais je soutiens son point de vue qui voudrait que les négociations ou les pré-négociations qui ont commencé à Bujumbura puissent intégrer la donne militaire parce qu'elle est aussi à la base de beaucoup d'incertitudes dans tout ce qui est en train de se faire. Sans prendre en compte cette force-là, on va naviguer à vue. On peut se mettre tous d'accord à Kinshasa. Fayoulou est allé voir le président de la République. Qu'est-ce que ça a apporté dès lors que le dialogue n'a pas eu lieu et que la guerre n'a pas pris fin? Donc, nous devons prendre en compte tous ces paramètres-là pour que la situation soit traitée de manière globale, pas de manière sectorielle, pour créer des stratégies ou des subterfuges en vue d'éviter telle ou telle autre situation, alors que sur terrain, la situation est en train de s'empirer et que la population vit les pires chaque jour.
Et vous avez l'impression que le régime en place a favorisé cette initiative du Burundi, ou bien ça l'a échappé. Ça lui a échappé entre-temps. Si oui, comment comprendre qu'il y a quelque temps, le régime n'était pas si favorable à la sortie des opposants pour aller à d'autres séances à l'étranger, et que pour celle de Bujumbura, ça a été convoqué et les gens sont allés sans qu'il y ait trop de complications.
Bon, il y a deux choses sur ce point de vue, sur ce point-là. La première, c'est que n'oublions pas que le président burundais, il est président en exercice de l'Union africaine. Et à ce titre-là, tout ce qui concerne la paix sur les territoires africains peut les concerner en tant que tel. Et c'est en deuxième lieu, il est l'allié du gouvernement congolais et face à la montée en puissance des revendications de l'opposition qui commençait à prendre de l'ampleur d'une insurrection, il était temps qu'il vienne pour tempérer les ardeurs. Et à ce titre-là, en tant qu'allié, peut-être qu'ils doivent avoir causé sur la question avec son homologue congolais. Alors, il me serait difficile de dire le contenu ou de révéler le contenu pour autant que ça n'a pas été révélé sur cette question-là.
Tout à fait.
Mais il avait souligné une question très importante, il a dit, c'est par la stabilité des institutions que la guerre pourrait être éventuellement maîtrisée. Donc, autrement, il voulait amener le pouvoir à revoir ce calcul par rapport à la révision constitutionnelle qui ne mettait pas tout le monde d'accord. Alors, au changement de la constitution.
Alors, les analyses de vous trois, telles que vous l'avez fait jusqu'ici, revient sur le mot consultation, le mot négociation, mais est-ce que quand le communiqué ou les déclarations officielles entendues ici parlent des consultations sur les tensions politiques, sécuritaires et institutions, est-ce qu'on est là déjà dans les négociations, dans les rapports de force entre le régime?
Bon, les rapports de force sur terrain, on sait vivre les rapports de force sur terrain. L'opposition, si ils sont partis, on a remis à Sessang son passeport, c'est que c'est déjà une voix qui porte et qui a été écouté de l'une ou de l'autre manière par le pouvoir. C'est peut-être pour cela que le président burundais est venu discuter avec son homologue et il a préféré continuer ses échanges avec l'opposition pour qu'il y ait une convergence de vues. Et nous sentons, au regard des discours des uns et des autres, qu'il y a une convergence de vues. Bon, consultation, négociation, ce sont des termes. Mais au moins, le Congo est engagé dans plusieurs salons internationaux dans un dialogue permanent avec ses homologues. Mais le dialogue, au sens vrai du terme, voudrait que ce soit un dialogue inclusif qui prendrait en compte également le cahier des charges de la résistance armée, qu'on ne voudrait pas appeler opposition parce que les termes
quel que soit le terme à utiliser, ceux qui ont les
armes. Mais ce que je voudrais ajouter sur ça, c'est quoi? C'est que
Kinshasa. Dans le propos du président de la République lors de son dernier point de presse, il a démontré clairement que il a du mal à négocier avec nos frères qui sont alliés à l'agression rwandaise. Pourquoi ? Parce que même s'il négociait avec eux, cela ne garantirait pas effectivement le retour de la paix. D'autant plus que les discours que nous suivons dans les réseaux sociaux à travers les intervenants rwandais attestent effectivement qu'ils sont au Congo pour d'autres raisons et non pas pour la paix ou la négociation avec ou pour le cahier des charges que semble porter l'opposition ou la résistance armée ou les rébellions, s'ils en existent. Donc ça voudrait dire que l'équation est très complexe avec nos amis qui ont pris les armes. Est-ce que si le pouvoir décide de négocier, comme ils sont déjà suffisamment avancés dans les négociations, il y a eu même retrait par-ci par-là, réchange de opposants et de prisonniers, la République a libéré certains prisonniers de guerre. Également, j'ai appris que la rébellion l'a fait. C'est qu'ils sont en plein dialogue. Mais pourquoi ce dialogue-là n'aboutit pas à un compromis qui soit capable de mettre fin définitivement à la guerre? Parce que la guerre a repris de plus belle. En remettant même en cause le fameux accord de Washington.
Notre émission se poursuit donc avec sa partie aussi interactive avec la population. Christian Moleka, nous allons écouter pour vous la réaction de Junior de Kinshasa. Ensuite, vous allez prendre la parole pour réagir aussi bien à son interprétation que l'ensemble de ce qui s'est dit jusqu'ici.
Junior Compongo depuis la ville province de Kinshasa. Ces consultations traduisent une volonté de l'Union africaine de maintenir ouverts les canaux de dialogue face à une crise multidimensionnelle de notre pays. Toutefois, elles mettent aussi en évidence la profondeur des divergences internes. D'un côté, l'opposition LC64 réaffirme que toutes ces réformes constitutionnelles sont inacceptables dans les contextes actuels. De l'autre côté, les confessions religieuses insistent sur la nécessité d'un consensus national avant toute décision majeure. Donc, le défi pour la médiation burundaise serait donc de dépasser une simple écoute des positions pour favoriser un véritable compromis politique, sans garantie sur la sécurité, l'inclusivité du processus et le respect de l'ordre constitutionnel. Cette consultation risque de n'être qu'une étape diplomatique supplémentaire sans impact durable sur la crise congolaise. Merci.
Christian Moleka.
Effectivement, je crois qu'on a dit les mêmes choses dans des termes différents. Ça veut dire qu'on peut changer des cadres si les positions n'évoluent pas, eh bien on continuera à tourner en rond. La médiation burundaise a probablement le mérite d'être à l'écoute de Kinshasa, mais il n'en demeure pas moins que les lignes doivent avancer. Toute négociation, la négociation est un processus, hein, donc même si on dit consultation, c'est peut-être des étapes pour aboutir à la négociation. C'est construit sur des... C'est vrai, des positions d'ancrage élevées au départ, mais par l'échange conditionnel. C'est-à-dire, chaque partie doit faire des concessions pour aller vers des compromis. Et donc, si les parties ne peuvent pas aller vers des compromis, eh bien, nous continuerons à tourner en rond. En sens politique, on parle de l'ingénierie de l'ordre. L'ingénierie de l'ordre, c'est toujours soit par la force, soit par le compromis. On peut construire l'ordre par le compromis, ou on peut construire l'ordre par la force. Et donc, si on ne sait pas construire l'ordre par la force, on doit le construire par le compromis. Et donc, si le système ne peut construire ni l'ordre par la force, ni l'ordre par le compromis, le système va se scléroser, il va se bloquer. Et donc, malheureusement, nous sommes en train d'inscrire notre crise vers une forme de sclérose. Et tout ce que nous sommes en train de faire, sans trouver de compromis, ne sont que des manœuvres qui ne font que repousser l'échéance de la crise. Mais la crise, on ne la repousse pas, parce qu'à force de la repousser, à un moment donné, elle va, un peu comme faire l'effet boule de neige, elle va devenir si complexe qu'elle va nous sauter au visage. Donc, il faut que nous faisions le choix. Soit le choix de la manœuvre permanente, à savoir repousser, soit le choix de regarder avec lucidité les rapports de force ou l'établir par la force ou par le compromis, mais il faut que nous levions des options. Et pour l'instant, les positions, comme je le dis, chaque parti a présenté des cahiers des charges. Et comme les partis n'ont pas suffisamment communiqué, nous ne savons pas savoir quels sont les gains, les concessions que chaque parti a fait à l'autre. Que l'opposition accepte d'aller au Burundi, je ne pense pas qu'ils sont allés en sacrifice en disant, voilà, nous lèvons notre gain sans contrepartie. L'opposition est allée en sollicitant des contreparties. Est-ce qu'il y a eu des garanties des contreparties qui ont été proposées? Quelles sont ces contreparties? Est-ce qu'il y a eu de concessions faites par le régime? Quelles sont ces concessions? Tant que les partis ne communiqueront pas sur les gains et les concessions, eh bien, nous sommes en train de spéculer.
Nous spéculerons et pour essayer de percer l'abcès. Merci d'être là justement ce soir pour nous permettre de faire cet exercice. Frédéric Amani, pour vous, nous allons recevoir cet appel de Lubumbashi.
Chérin Tamboué depuis Lubumbashi. La présence de l'opposition et des principales confessions religieuses montre que plusieurs acteurs souhaitent faire entendre leur position dans un cadre régional. Le message porté par la coalition C64 sur l'intangibilité de la Constitution illustre que le débat institutionnel demeure au cœur des divergences. Cela ne signifie pas qu'un consensus existe, mais que chaque parti défend publiquement sa lecture de la situation. En définitive, ces consultations n'ont pas de pouvoir de décision sur les institutions congolaises. Elles constituent plutôt une démarche de facilitation et de concertation. Leur succès dépendra moins des déclarations faites à Bujumbura que de la capacité des acteurs congolais à engager un dialogue inclusif dans le respect de la constitution, des institutions et de l'intérêt supérieur de la nation.
Frédéric Amani.
Tout ce qu'on peut dire en résumé de l'intervention de l'auditeur de Lubumbashi, M. Tamboué, c'est que les efforts internes doivent primer sur les efforts externes. Et il est difficile d'avoir plus d'efforts externes qui réussissent que des efforts internes qui échouent. Voilà pourquoi il est indispensable de souhaiter de promouvoir l'unité et la cohésion par les dialogues inclusifs et que cela donnera des armes à toute autre initiative externe pour venir appuyer ce qui sera fait en interne. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on pourra penser que toute initiative va conduire à la stabilité.
Allô, Frédéric Amani, vous êtes là?
Oui,
les communications sont... Allez-y.
C'est bon. Il faut craindre que l'initiative de Bujumbura ne soit pas une stratégie de l'usure, dans la mesure où nous sommes revenus plusieurs fois là-dessus, parce qu'il y avait crainte par rapport à la marche qui était prévue aujourd'hui, mais comme la marche est passée, on attend la communication ou le point de presse de l'opposition demain, c'est après qu'on saura si la marche aussi du Vendée sera maintenue ou la suite sera comment. Mais au-delà de ça, c'est que le pouvoir en place, ou la majorité, c'est une stratégie politique bien calibrée, parce que la politique, c'est un champ des rivalités, pour reprendre l'expression des Bourdieu, c'est que il faut davantage arriver à dompter l'adversaire pour prendre du temps et passer, n'est-ce pas, cette année et projeter peut-être les dialogues ou d'autres consultations, n'est-ce pas, l'année prochaine. Donc, les dialogues, oui, mais que ces dialogues se tiennent dans un format bien négocié et par les Congolais et pour des questions, n'est-ce pas, d'intérêt général et pour le bien du peuple congolais.
Tout à l'heure, vous avez émis un bémol et peut-être un questionnement sur la sincérité du président burundais. Selon vous, y a-t-il des éléments qui vous poussent à penser que le président burundais, peut-être par solidarité à son homologue congolais, peut n'avoir agi que pour... retarder un peu les tensions qui commençaient à monter?
Tout à fait, parce que il faut savoir, disons des choses clairement comme ça, et dois-je rappeler ici qu'il y a aussi des tensions, ou pas vraiment tensions, mais il y a une crise latente entre Burundi et Rwanda, voyez-vous. Il y a aussi le soutien que le Burundi apporte à la RDC. Je crois que le Burundi aussi craint d'être sur plusieurs fronts. Entre-temps, en découdre avec le Rwanda, et aussi il y a l'ennemi qui serait à sa porte au travers Uvira. Je crois que le Burundi a besoin de voir Kinshasa stable pour continuer à promouvoir cette coopération et évoluer. Alors, la sincérité se pose au niveau où je pense que pour Burundi, voudrait voir que, n'est-ce pas, Kinshasa soit stable, mais aussi accepte les cahiers des charges de l'opposition pourvu que cette tension ne puisse pas embraser la région. Parce que la crainte du Burundi et des autres pays de la région, c'est éviter cet embrasement de cette crise qui risque encore de plonger la région des Grands Lacs dans un tournant infernal.
Malheureux. Merci beaucoup Frédéric Amani. Alidor Chibanda, pour vous, ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Isangi.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. L'initiative du président burundais et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, mérite d'être saluée car elle traduit une volonté de favoriser les dialogues face aux tensions politiques, sécuritaires et institutionnelles qui s'écoulent à RDC. Toutefois, pour produire des résultats durables, ce dialogue devra être véritablement inclusif. Il ne peut se limiter aux échanges entre le pouvoir, la coalition C64 et les confessions religieuses. Les principaux acteurs directement ou indirectement impliqués dans la crise devraient également être associés, notamment l'AFC-M23, ainsi que la plateforme de l'ancien président Sauvons le Congo. Dans cette logique, la question de la participation de Joseph Kabila, que le régime actuel présente comme la principale main noire derrière les conflits, ne pourra être éludée si l'objectif recherché est une paix globale et durable.
Allez, dans Subanda.
Oui. Il nous rejoint dans son analyse, dans le sens où il salue l'initiative qui a désamorcé l'ardeur de l'opposition sur place dans la ville, qui faisait que le pouvoir se retrouvait en face de trois fronts. L'affront de l'opposition politique, le front de l'opposition politique, le front militaire et éventuellement le front social, parce que ça c'est aussi un front très permanent. Qui n'a pas jusqu'ici encore trouvé
des solutions.
Alors face à tous ces fronts, il fallait trouver un terrain qui puisse alléger tant soit peu cette crise qui commençait à se faire sentir à Kinshasa avec les différentes manifestations annoncées par le pouvoir. Et le passage du président Ndayishimiye a apporté quand même une baisse des températures, ce qu'il faut saluer. Et de l'autre côté, ce n'est pas qu'il a guéri la maladie. C'est pourquoi il soutient à ce que les consultations puissent s'étendre aussi à la branche militaire et à nos amis du FCC pour que on dégage un consensus qui soit capable d'aborder la question de manière globale et probablement totale. Parce que si l'opposition va se mettre d'accord avec le pouvoir et que Tshisekedi accepte de retirer la loi, est-ce que cela aura résolu la question de la guerre à l'est de la République? Je crois que non. Donc il faudrait une approche holistique, comme on l'a dit, qui prendrait en compte et l'aspect militaire et les manifestations des rues pour que le Congo vive la paix et que le Congo s'engage à la prospérité.
Alors, quand on analyse bien les enjeux en ce moment, c'est surtout autour de la défense de la Constitution et autour de la recherche d'un dialogue, comme on le dit souvent, inclusif. Mais au jour d'aujourd'hui, cher Alidor Chibanda, est-ce que ce sont des attentes qui permettront vraiment à la RDC de résoudre le problème apparemment qui est récurrent, des instabilités institutionnelles et politiques à récurrence? Mobutu en a connu autant, et à son époque, l'un de carrefours de débat le plus connu qui avait été retenu à ce moment-là, c'est notamment la conférence nationale souveraine. Joseph Kabila est arrivé, en a fait autant, en commençant par Sun City et de nombreux dialogues qu'il a eu à réaliser pendant son régime. Aujourd'hui, on en est encore à constater que les tensions existent dans les communautés, que les acteurs politiques n'arrivent pas à regarder dans la même direction, que les résistances et les prises d'armes se reproduisent. Est-ce que vous pensez que ces revendications, notamment autour de la Constitution et notamment autour d'un dialogue, pourraient être la solution pour résoudre définitivement?
Dans un premier temps, il est difficile de dire que les dialogues aboutissent à une solution définitive qui puisse apporter totalement la paix. Non, la paix, c'est un processus qui appelle même une socialisation du peuple congolais. Parce que quand vous analysez au clair, quand le président Kabila a parlé des causes profondes, quelles sont ces causes profondes? Quelle est sa part de responsabilité dans ces causes profondes?
À chaque réclamation d'un dialogue, c'est le vocabulaire qui revient.
Quelles sont ces causes-là profondes? Est-ce que les causes profondes se résument dans leur deal pour le partage de pouvoir? Les causes profondes se résument dans la débâcle électorale? Je suis en train de réfléchir d'ailleurs sur un concept qui m'amène à dire que est-ce que le processus démocratique du Congo, n'est-ce pas une escroquerie? Parlons-en.
Comment
ce n'est pas le moment, on en parlera un autre jour. Une escroquerie. Lorsque, depuis que nous avons commencé le processus de contrat, depuis 2006 jusqu'à ce jour, les Congolais n'ont jamais su qui est le véritable électeur élu.
Il y a toujours des...
Quand nous prenons les débats entre les politiciens, on se demande qui est le véritable élu. On ne le connaît pas. Quand vous allez, j'ai suivi dernièrement des discussions sur les réseaux sociaux, quand vous discutez sur les résultats des députés, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quelque chose à dire. Est-ce que ce n'est pas une escroquerie organisée pour donner le pouvoir à une classe politique qui n'a rien à voir avec le peuple pour demeurer dans la situation dans laquelle le pays est plongé? C'est une question, c'est une réflexion qui appelle plusieurs, tout ce qu'on observe, tout ce qui s'est dit, je considère ça d'abord comme hypothèse. Il faut que je puisse fouiller davantage pour trouver des réponses qui soient capables de convaincre l'opinion. Ça, c'est un problème. Nous devons y réfléchir. Est-ce que le dialogue, c'est le lieu convenable ou attitré pour débattre de toutes ces questions? Je me demande, il faudrait d'abord qu'on sache qu'est-ce que le président honoraire attend par cause profonde. Qu'est-ce que Nanga attend par cause profonde? Est-ce que c'est le problème de sa mine qui l'a poussé à aller en rébellion après avoir tout perdu alors que c'est lui qui a proclamé les résultats? Donc tout ça, ce sont des questions qui peuvent nous amener au-delà des individus à questionner notre processus électoral, à questionner notre démocratie, pour que nous puissions nous engager sur des pistes capable de nous apporter la paix. Dès lors qu'on n'a pas de vraies questions, on ne se pose pas de vraies questions, on se contente de satisfaire les intérêts des hommes, nous allons encore patauger davantage.
Pendant longtemps. Alidor Tshibanda, nous sommes justement dans les conclusions de cette émission. Vous vous êtes posé beaucoup de questions, c'est des réflexions que vous faites longuement. Vous n'avez peut-être pas trouvé la réponse définitive, mais puisqu'il faut conclure cette émission, selon vous, vous pensez que pour résoudre justement ce problème récurrent de contestation en RDC, de manque de continuité dans la paix, dans la gouvernance et dans la gestion de l'État, selon vous, quelle pourrait être la solution? Puisque apparemment vous réfléchissez aussi sur le fait que est-ce que la démocratie à la congolaise ou appliquée en RDC, est-ce qu'elle a été la bonne? Est-ce qu'elle est la bonne? Est-ce qu'elle est nécessaire? Vous arriverez à quelle conclusion, par exemple, s'il fallait en proposer une?
Pour le moment, on encourage qu'on aille d'abord au dialogue. L'urgence, c'est la paix. Et après, on se posera la question du pain et de la stabilité.
Même si on a déjà eu plusieurs dialogues qui n'ont pas résolu...
Elle vaut la peine parce qu'elle va nous permettre d'avoir une accalmie. Dans un premier temps, pour se poser des questions sérieuses, il faudrait qu'on soit en paix. Qu'on soit en paix et que les gens se retrouvent après que les armes aient cessé de crépiter, on pourrait se poser des véritables questions et discuter
sur peut-être les vraies causes profondes.
Sans état d'âme, sur des causes profondes, parce que quand on le dit par moment, quand vous essayez de fouiller, vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le deal qui constitue des causes profondes? Si c'est le deal, en quoi le deal engage le Congolais?
Déjà que si c'était le deal à l'époque de Mobutu aussi, on voulait examiner les causes profondes.
Ça ne nous engage pas. Et ça, deuxième problème, est-ce que votre problème de mine, il y a des instances judiciaires, vous ne pouvez pas le poser, il faut prendre des armes. Alors, qu'on mette fin d'abord
à la tension,
militaire et politique en cours, et puis revenons, posons-nous des véritables questions. Merci. Je crois que c'est à l'heure, peut-être qu'on discutera de la stabilité institutionnelle, mais pour le moment...
Dialoguons et trouvons des solutions.
Trouvons d'abord la paix. Et puis...
Merci à vous, Alidor Tshibanda, Frédéric Amani, aussi un peu en guise de conclusion pour vous. Quelles sont, selon vous, les fameuses causes profondes qui reviennent à chaque cycle et quelle pourrait être la vraie solution à la résolution de toute cette incertitude congolaise?
Il faut dire d'abord que l'homme congolais semble n'avoir pas appris de l'histoire, malheureusement. Je crois que c'est ce qui nous ramène à ce cycle infernal, n'est-ce pas, des retournements de situation. Dédé, je pense que le dialogue étant une vertu dans toute société moderne, eh bien, dialoguons et posons des questions profondes, pour reprendre l'expression, afin de regarder dans la même direction et d'évoluer. Et de trois, je pense que il faut, dans toute action politique ou dans toute action d'un homme d'État, il faut privilégier l'intérêt général, et cela va permettre à ce que les intérêts égoïstes ne puissent pas primer sur l'intérêt général. Lorsque vous regardez les précipitations, les déclarations des uns contre les autres, les agitations, on a tendance à croire que beaucoup plus c'est cramponné sur les intérêts égoïstes que l'intérêt général. Malheureusement, certains disent parler pour le peuple et au nom du peuple, mais en réalité, lorsque vous lisez ou lorsque vous scrutez leurs actions, le peuple est en dernier ressort, malheureusement.
Merci à vous, cher Frédéric Amani. Christian Amouleka, est-ce que, en ayant vécu plusieurs dialogues inclusifs et qui nous ont pris le temps que ça nous a pris, et qu'on en soit aujourd'hui arrivé à réclamer un énième dialogue, est-ce que ce n'est pas la reconnaissance que cet outil a échoué? Faut-il encore l'utiliser aujourd'hui, même s'il faut, comme Alidor Tshibanda a dit, essayer d'abord de faire baisser les tensions actuelles? Et selon vous, après toutes ces réflexions, après le constat de la situation d'aujourd'hui, la vraie solution pourrait être quoi?
Je pense que le problème, c'est pas l'outil. Aman, il l'a évoqué avant moi, en me prenant presque les mots dans la bouche. L'histoire est bégaiement. Lorsque vous répétez les mêmes erreurs, vous devez vous demander pourquoi je répète les mêmes erreurs. Le problème, c'est pas l'erreur. Le problème, c'est vous qui n'êtes pas lucide. Et donc, notre défi à nous, c'est que nous répétons l'histoire. Nous répétons l'histoire parce que nous ne tirons pas les leçons des crises antérieures, que ce soit les crises en 60. Si vous prenez notre constitution, prenez les préambules. Les préambules de la Constitution rappellent les origines des crises. L'exclusion politique, la confiscation du pouvoir, les divisions, le tribalisme. Ces réponses sont dans la Constitution. Il ne faut pas aller les chercher loin dans les préambules. Il faut le lire. Et donc, nous les connaissons, ces problèmes depuis 60, mais nous les répétons. Et tant que nous continuons à répéter les mêmes erreurs qui sont reproduites dans le préambule de notre Constitution, eh bien, nous référons les mêmes chemins de dialogue. Parce que le dialogue, ce n'est pas le point de départ, c'est le point d'aboutissement. Et nous aboutissons à ce même point parce que nous prenons le même chemin.
Mais est-ce que ça ne devient pas un peu une illégalité de vouloir gouverner notre pays par des dialogues alors qu'on sait que un parti gagne le pouvoir, il finit ses mandats ou son mandat et est dégagé par les prochaines échéances officielles et légales?
Gouverner par la crise est un bon stratagème en Afrique. Gouverner par la crise permet à la fois de remettre en question les rapports des forces institutionnelles, mais elle permet par la fois également de construire, je dirais, une forme de fuite en avant face à l'obligation électorale. Donc, gouverner par la crise c'est une stratégie qu'en Afrique on a construit depuis très longtemps, que ce soit au pouvoir comme à l'opposition.
Merci. Dialogue entre Congolais se clôture ici pour aujourd'hui. Merci à vous, nos analystes de ce soir. Les remerciements vont également à Guy Maté, Sylvain Baoguere, Benjamin Moudoumbi et tous ceux qui ont participé à la production de cette émission. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Merci à tous pour l'écoute. Au revoir.